de Lucas Vázquez. La pide Benzema, la pone Lucas Benzema. ¡Taconazo! Uruguayo Cristiano Oliva jugando y para. La carrera de José Lu, golpeo, golazo. ¡Golazo de José Lu!
Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Ligue Actu, le podcast 100% foot espagnol. Et voilà, on arrive là dans la dernière ligne droite de la saison. Il reste 5 petites journées à disputer. Les places européennes, les points, tout vaut cher. Là, c'est l'effervescence un peu en Liga. Et puis ce week-end, on a quand même un super match hein, du côté de San Mamés avec l'Athletic Club qui accueille l'Atlético de Madrid. Alors pour nous parler de l'Athletic Club, pas de surprise, Réfé, comment ça va?
Eh bien écoute, ça va très bien, content de revenir pour parler de l'Athletic. Et puis oui, tu l'as dit, les points valent cher dans cette fin de saison et ça va être le cas de le dire en tout cas dans cet épisode. Mais voilà, très content en tout cas d'être ici de nouveau.
Ben voilà, c'est parfait. Et puis pour te répondre, pour nous parler de l'Atleti, là il y a un casting en général un peu plus étoffé avec Loris, avec Rata, et puis on a surtout aussi le retour de Timéo. Timéo, comment ça va?
Alors ça va super. Je suis très content de revenir, de prendre à nouveau part à ce petit podcast. C'est vrai que de temps en temps ça tourne, mais ça fait toujours plaisir de participer. Et puis comme a dit Ruben et comme tu l'as dit juste avant, c'est vrai que les points valent cher et je pense que dans notre position les points valent très très cher. Oui,
exactement, on va y revenir. Ça fait l'objet de ce podcast aussi avec une petite question, mais on va commencer par l'Athletic hein, vu que ce sont les Lions qui accueillent les Colchoneros. Donc Ruben, l'Athletic conserve néanmoins des très légers espoirs de qualification européenne. Mais est-ce que tu penses que c'est possible? Voilà. Factuellement, on sait que c'est encore atteignable. Mathématiquement, ça peut le faire. Mais est-ce que c'est quand même pas trop tard vis-à-vis de certains rivaux qui, en plus, devraient vraiment s'effondrer?
Disons d'abord pour commencer qu'on peut remercier le Betis d'avoir gagné cette Copa, parce que pour rappeler, voilà, c'est vrai que si le Betis gagnait la Copa face à Valence, la 7ème place devenait européenne. Donc effectivement, tu l'as dit, il y a encore de minces espoirs. Maintenant on est à 4 points de Villarreal qui est 7ème. Il reste 5 journées. Moi personnellement je vais le dire assez clairement, j'y crois pas vraiment parce qu'on a pris trop de retard et que je vois mal Villarreal lâcher. C'est vrai qu'ils ont encore ce match retour de Ligue des Champions contre Liverpool et qui sait, peut-être une possible finale, même si ça semble compliqué. Non, moi en tout cas je pense que ça va être difficile. C'est vrai qu'on a un calendrier qui globalement qui est plutôt abordable. Il y a ce match face à l'Atlético ce week-end qui est difficile, mais après c'est des matchs jusqu'à la fin de saison qui vont être plutôt jouables et plutôt négociables. Mais c'est vrai qu'effectivement, moi je pense qu'on a perdu trop de points, on a trop souvent été au-delà des résultats, on a trop souvent été dans le jeu assez dominé ou assez faible. Je pense au dernier match contre Cadiz par exemple, on fait 45 minutes exceptionnel, 3-0 à la mi-temps, et seconde période où on se fait marcher dessus par l'équipe qui est 18ème de Liga et ça finit en 3-2. Mais c'est-à-dire que cette équipe prend des points, mais vraiment sans rassurer, sans bien jouer. Et c'est ce qui me fait penser aussi que, même si tu le disais, voilà, on reste en vie mathématiquement. La semaine d'avant, on a aussi perdu contre le Celta 2-0 à domicile, alors que le Celta était quand même dans une forme assez moyenne. C'est une équipe qui n'avait pas gagné depuis très longtemps à San Mamés. C'était une équipe qui était derrière nous. Et donc, on ne devait pas perdre ce match. Et puis même tous les points aussi qu'on avait évoqués au début de saison, dans les matchs qu'on aurait dû gagner, qu'on n'a pas su finir. Tout ça commence à se payer un peu aujourd'hui, mine de rien. Et effectivement, j'ai plus énormément d'espoir, parce que mathématiquement, certes, il y a 4 points. 4 points, ça pourrait se combler, mais voilà, compte tenu de la dynamique qui est quand même assez moyenne, compte tenu du fait qu'on ait perdu des points trop souvent et que je pense que d'ici la fin de saison, il y aura aussi de mauvaises surprises, moi ça me paraît assez difficile en tout cas. Après, ce qui au moins est assez clair, c'est que les joueurs, ont montré en tout cas en conférence de presse qu'ils avaient envie, mais sur le terrain, c'est un peu plus compliqué en tout cas. Donc on va espérer, puis on va croire jusqu'à la fin de saison. C'est ce que je disais un peu, c'est que au fond, nous, on n'y croit pas vraiment, mais il y a toujours voilà, le fait que mathématiquement on se dise que tout n'est pas mort, ça entretient, on va dire, ce mince espoir. Mais voilà, si on est réaliste, et je pense qu'il ne faut pas se voiler la face, je pense qu'il n'y aura pas d'Europe pour cette année. C'est un grand regret, comme j'ai l'habitude de le dire assez régulièrement. Mais je pense que, autant il y a des saisons, je pense qu'on aurait mérité mieux autour de cette saison. Même si j'avais beaucoup d'espoir et que j'ai dit que je pense qu'on était vraiment bien armé pour aller en Europe, les dernières semaines, je pense qu'on mérite notre 8e place, et 8e place d'ailleurs qu'il va falloir conserver, mine de rien, parce que Osasuna est pas non plus loin derrière, et même si Valence, on sait que Valence aussi va moins bien, il reste comme en embuscade. Donc voilà, moi je pense qu'on terminera 8e et à quelques points de l'Europe, mais voilà, on manquera l'objectif, en tout cas pour cette saison.
Très bien, donc peut-être une situation si près, si loin hein, pour l'Atleti. Puis on va rester un peu dans le même ton. Alors cette fois-ci, on parle pas de lutte pour la C4 ou la C3. On parle de lutte pour le top 4, la Champions League, la reine des compétitions. Et l'Atleti, bon, c'est pareil, c'est une lutte qui est vraiment acharnée. L'année dernière, ça se battait pour le titre. Cette année, ben voilà, c'est faut revoir un peu les prétentions. À la baisse, mais la victoire d'Elche la semaine dernière contre, enfin du moins il y a 2 semaines contre le Betis permet à l'Atleti d'avoir néanmoins 4 points d'avance sur cette 5e place en ayant 2 points de retard sur respectivement le Barça et le Séville de Julen Lopetegui. Toi de ton côté, Timéo, comment est-ce que tu vois cet objectif du top 4? Est-ce que tu as peur? Est-ce que tu es quand même confiant? Voilà. Quel est ton sentiment vis-à-vis de la qualification en Champions League?
C'est vrai que, comme tu l'as dit, la saison elle est assez décevante, même très décevante pour être honnête. Alors forcément là, il faut voir les objectifs à la baisse. C'est vrai qu'on a quand même cette chance d'être à 4 points du Bétis, donc on a un petit matelas, même si voilà, c'est un petit matelas vraiment petit, parce que on a quand même un gros calendrier qui nous attend sur cette fin de saison. Déjà l'Athletic aller chez eux, je crois qu'on n'a pas gagné chez eux depuis 2017 ou un truc comme ça, donc c'est quand même très compliqué d'aller battre l'Athletic à San Mamés. Et puis il nous reste encore Séville, la Sociedad, le Real et tout. À part Elche, on n'a que du lourd. D'un autre côté, on a le Betis qui a quand même un bon calendrier assez difficile aussi. Donc je pense que pour le top 4, ça peut le faire. Après, je pense que si l'Atlético termine quatrième cette saison, on pourra tous dire que c'est une saison très décevante, même si la qualification est là. L'Atlético, pour moi, ça doit être au moins sur le podium, au moins deuxième ou troisième, surtout au vu de l'effectif. Après, j'ai quand même confiance en l'effectif, j'ai confiance en l'équipe, en Cholo, pour mettre aussi les idées en place des joueurs qui avaient peut-être un peu la tête ailleurs lorsque on a été éliminé de la Ligue des Champions, qui ont eu du mal contre Grenade il y a 2 semaines. Je me dis que là, c'est un petit sprint final qui a moyen de remobiliser les troupes pour aller chercher, pourquoi pas, un podium, même si on sait que le calendrier du Barça et de Séville reste quand même moins gros, je trouve, que celui de l'Atlético. Donc, pour la qualification européenne, je pense que ça devrait le faire. Après, pour une petite fierté, il faudrait quand même essayer d'accrocher ce podium, ouais.
Ouais, tout à fait. C'est vrai que ben, le calendrier aussi, c'est quelque chose qui peut-être être handicapant pour l'Atleti. On pensera aussi sans doute à certains matchs entre guillemets faciles ou abordables, ou au contraire de la saison dernière, ben, il y a eu quelques points qui ont été abandonnés et qui peut-être à l'heure du bilan compteront ou ne compteront pas avec une qualification. Puis je vais retourner vers le réfé pour lui poser une question sur l'Atletique. La situation, elle évolue quand même du côté administratif depuis quelques jours. Au niveau de la présidence, voilà, on sait qu'il va y avoir des élections début juillet. Ça a été annoncé. Tu as un avis aussi, d'ailleurs, assez tranché là-dessus. Qu'est-ce qui va se passer pour Marcelino? On a vu que De Marcos avait prolongé son contrat d'une saison supplémentaire. Voilà, est-ce que tu peux nous faire un condensé un peu de cette actualité et nous la commenter, Ruben?
Ouais, bien sûr. Bah, alors, c'est vrai que j'y avais pas repensé, mais effectivement, De Marcos, il a prolongé d'une saison, donc latéral droit aussi, qui est quand même là depuis quelques temps, 14e saison au club. Bon, disons que c'était pas forcément une priorité, mais que au vu du bazar qu'est le couloir droit, on peut se dire que finalement ça peut faire du bien. Sans que il a quand même montré aussi de bonnes choses aussi cette saison, même s'il était assez régulier. Et puis au-delà de ça, c'est vrai qu'il y a eu quand même deux gros dossiers. Il y a le dossier de Marcelino. Alors, C'est vrai qu'on a déjà pas mal parlé des dernières semaines, mais effectivement, ça a pas mal bougé et on sent que les choses commencent un peu à se décider, à se crisper. Il y avait Marcelino qui est en conférence de presse aujourd'hui et qui a commencé justement à dire que son avenir était vraiment incertain. Et il y a quelques jours, il était croisé dans la rue par des journalistes du Chiringuito à Madrid, où il disait que quand on lui demande s'il a envie de rester ici, il répond que c'est un grand club et qu'il voilà, il est content d'avoir travailler ici, mais on ne sait pas voilà s'il va rester. Et en même temps, parallèlement, voilà, il y a aussi des élections, tu le disais, qui se préparent. Et moi, ce qu'en tout cas j'espérais comme un possible espoir, finalement, on se rend compte qu'il n'y a pas grand-chose qui bouge. Il y a probablement Ricardo Barcala qui est le seul candidat déclaré jusqu'à présent. Apparemment, il y a d'autres candidatures qui se préparent, mais voilà, Ricardo Barcala qui est, pour expliquer vite fait, le gérant du port de Bilbao, qui, bon, visiblement, sans pas avoir beaucoup de connaissances dans le foot, parce que lui a dit qu'il a donné une interview cette semaine en disant que lui en tout cas n'avait pas de grandes connaissances dans tout ce qui était domaine sportif, notamment le foot, et qui voulait absolument s'équiper d'un bon directeur sportif, justement pour qui serait responsable de toutes les décisions sportives, et puis donc un bon directeur aussi de l'ESAMA pour tout ce qui est de la formation. Donc effectivement, c'est quelque chose, on va dire, ou qui est pas forcément rassurant, ou même si voilà, on sait qu'il y a des clubs où c'est les présidents ne suivent pas forcément tellement le foot, mais je trouve que le fait qu'ils reconnaissent clairement et directement qu'ils connaissent pas grand-chose du foot, je trouve que c'est pas forcément très rassurant après les 3 ans et demi assez difficiles qu'on vient de vivre avec la dernière direction. Et puis voilà, après moi, en tout cas, j'espère en tout cas qu'on a un bon directeur sportif, ça c'est ce qu'il faut, parce que c'est ce qui nous a manqué aussi bien. Dans tout ce qui était recadrage de l'effectif, on a senti que des fois l'équipe se lançait trop aller et que le changement de coach répété n'a pas forcément aidé non plus. Et puis, je reste quand même convaincu malgré tout qu'il y a des recrues qu'on aurait pu faire et qu'on n'a pas fait. La masse salariale déjà est trop haute et ça il faut le dire. Mais le budget en tout cas lui est à l'équilibre et ça aussi c'est quelque chose qu'il faut préciser. Donc économiquement on est plutôt bien et je pense que le directeur sportif aussi aura son mot à dire là-dedans. Et puis donc ce qui me permet de revenir sur Marcelino, c'est que Barcala a justement déclaré qu'il avait négocié, qu'il avait en tout cas débuté de négociation avec d'autres entraîneurs en parallèle. Et donc clairement on sent que ces propos de Barcala n'ont pas vraiment plus à Marcelino, parce que lui-même l'a dit ce vendredi en conférence de presse. Ça pourrait, en tout cas, ses déclarations pourraient l'aider à prendre une décision définitive quant à son avenir à l'Athletic. Donc, on sent forcément qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas forcément comme avant. Est-ce que lui veut rester? Ça reste comme la grande inconnue, mais quand on sait qu'il y a aussi les rumeurs avec la sélection espagnole qui disent qu'il pourrait reprendre la sélection espagnole après le mondial, donc en décembre, et qui donc serait prêt à quitter l'Athletic dès cet été, c'est-à-dire que il prolongera probablement pas, moi en tout cas j'en suis de plus en plus convaincu, et le contexte général me fait penser que c'est la bonne, c'est la fin, c'est la bosse, c'est ce qui va se passer, parce que c'est ce que je dis, on sent qu'il y a un entraîneur qui est dans ce club-là, il le répète, mais qui peut-être aussi veut voir plus grand, ça peut s'entendre également, et qui voilà, bah, pas forcément peut-être non plus la priorité pour la prochaine direction, donc ça va être aussi des éléments à suivre, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se bousculent. Et puis surtout également, ce qui fait un peu scandale également, c'est que les élections présidentielles donc devraient être convoquées début juillet. C'est une catastrophe totale parce que la direction actuelle, pour le moment, ne veut pas les convoquer plus tôt que ça. Et donc je vous laisse imaginer une saison qui se termine mi-mai et on organise des élections début juillet. Autrement dire, c'est quand la pré-saison débute qu'on va en gros organiser des élections. Donc c'est un timing mauvais, tout simplement mauvais dans la préparation de la prochaine saison, parce que début juillet, c'est là normalement où on commence à voir qui va rester ou qui pourrait partir. On a notamment normalement un entraîneur fixe, une direction assez fixe aussi, et puis on commence à travailler sur les prochains matchs qui arrivent, les amicaux qui arrivent, parfois les stages à l'étranger aussi. Donc effectivement, là, il n'y a rien de tout ça qui devrait être préparé, et ça me semble un peu risqué. Donc voilà pour le résumé un peu complexe, on va dire, de cette actualité plutôt administrative.
Donc une actualité qu'on ne manquera pas de suivre et qui sera, je pense, captivante. Repassons maintenant du côté de l'Atleti avec le cas d'un joueur qui personnellement me plaît beaucoup. C'est un joueur que je trouve fantastique, très complet, avec énormément de qualité, qui l'année dernière marchait sur l'eau. C'est Marcos Llorente. Et cette saison, on sent que c'est quand même un peu plus compliqué, quoi. Il y a beaucoup plus de mal pour lui dans le jeu, mais aussi au niveau des statistiques, hein. Tu ne manqueras pas de nous le dire, Timéo. Voilà. Toi, comment est-ce que tu pourrais tenter d'expliquer une telle comment dire, peut-être déception cette saison vis-à-vis du joueur qu'on a connu l'an passé, qui a été, à mon sens, encore une fois, la pièce maîtresse du titre de l'Athletic.
Alors, déjà, moi aussi, j'adore ce joueur, faut le rappeler quand même, mais je dirais que ce qui a pu aujourd'hui peser, en tout cas dans ses statistiques et tout, c'est que, comme tu l'as dit, c'est un joueur complet, et parfois, du coup, peut-être trop complet, et qui, du coup, aujourd'hui, se retrouve un peu malmené au niveau de son poste, qu'il ne l'était pas vraiment la saison dernière, où il avait vraiment cette continuité de milieu box-to-box, où il pouvait beaucoup plus se projeter, où il savait que quoi qu'il arrivait, il y avait un Koke qui était en grande forme pour protéger ses arrières si jamais il montait un peu trop. C'est une saison du titre où je pense que tout le monde était aussi un peu en sur-régime, et lui le premier, parce qu'il nous sort une saison totalement incroyable. Et puis il y a cette deuxième partie, enfin cette première partie de saison en 2021-2022, où je pense que lui, et pas que lui, une grande partie de l'équipe en général aussi, a eu un peu cette difficulté que d'autres clubs champions ont, c'est-à-dire de se remettre dans le bain, de se remettre au niveau et de recommencer comme si de rien n'était. Et donc, c'était pas le seul à avoir eu des performances décevantes en début de saison. On en a plein des joueurs qui ont eu des performances qui étaient en dessous de leurs attentes. Et puis, du coup, cette première partie de saison assez décevante où il est de temps en temps sur le banc, il subit la concurrence de Rodrigo De Paul qui vient d'arriver, donc ça n'aide pas non plus. Il a aussi subi deux blessures, une blessure, il revient, il rechute, donc ça n'a pas aidé. Il y a aussi Kondogbia qui a fait son petit trou dans l'équipe parce qu'il fait aussi de grandes performances, le centrafricain. Et puis en deuxième partie de saison, on a le départ de Trippier qui part en janvier, et donc on se retrouve à avoir de plus en plus un Marcos Llorente piston droit dans cette défense à 3. Donc, ça n'aide pas non plus à faire des statistiques, parce qu'on lui demande du coup beaucoup plus d'efforts défensifs, beaucoup plus de replis, et il le fait parfaitement. Et c'est pour ça que je dis que le fait qu'il soit très complet, ça peut aussi lui jouer des tours, parce que voilà, sur les stats, ça ne représente pas ce qu'il apporte quand même défensivement et offensivement, parce que je trouve que la manière qu'il a de se projeter à une vitesse quand même incroyable, ça aide beaucoup l'Atlético, et ça a réussi à pallier le remplacement de Trippier, la blessure de Vaz qui arrive et qui se blesse directement, et Versalco qui est pas forcément au niveau pour jouer tous les matchs à ce poste. Donc voilà, moi je pense qu'il y a toutes ces raisons là qui font que aujourd'hui Llorente ne fait pas les statistiques qu'il a fait la saison dernière, mais ça n'en reste pas moins une pièce maîtresse de l'effectif et sur qui on peut compter.
Je te remercie pour ces propos très complets sur Marcos Llorente. C'est vrai que ça prend un peu tout son sens, et on espère quand même qu'il retrouvera son meilleur visage pour nous en faire profiter. Je vais rester avec toi pour parler plus en profondeur de ce match, commencer à le préparer réellement, hein, avec les absences et les retours de joueurs. Voilà, quelle est la situation de l'Atleti? Voilà, est-ce que le Cholo peut compter sur tout son groupe? Qui est absent? Je te laisse nous détailler tout ça.
Déjà, qui est absent, on a la blessure de João Félix qui est tombé après le match contre l'Espagnol. Donc ça a été aussi un frein dans notre saison. On l'a vu directement contre Granada où on fait match nul 0-0. João Félix, il était vraiment sur une superbe forme depuis surtout la deuxième partie de saison. Il nous a ramené beaucoup de points, commencé vraiment à montrer son meilleur niveau. Donc malheureusement, il est blessé jusqu'à la fin de saison. Donc on devrait le revoir juste pour la saison prochaine. Et puis on a aussi Thomas Lemar, qui n'a pas été épargné par les blessures cette saison, et qui du coup n'en est toujours pas épargné là, et qui, comme João Félix, devrait pas retourner sur les terrains avant la fin de saison. Donc ça, c'est les deux absences majeures. Après, normalement, le groupe est au complet. Donc tous les autres joueurs sont disponibles, sauf changement d'ici à demain. Et voilà, on a surtout Joao et Thomas Lemar pour du coup des lésions musculaires qui devrait être absent pour toute la fin de saison et donc pour ce match.
Bah, très bien, je te remercie encore une fois pour ce point très complet. Et puis, ben, pareil, même question à toi, Ruben. Qu'est-ce que tu peux nous dire de l'effectif de Bilbao? Qui est là? Qui n'est pas là?
Alors, qui n'est pas là? Bah, je vais commencer d'abord par les absences. C'est l'absence de Via Libre qui, bon, souvent, il avait rechuté il y a quelques semaines. Bah, contre le Celta, justement, il y a une semaine, il y a bientôt 2 semaines d'ailleurs, qui donc était pressenti pour revenir, mais ne sera pas là. Donc, on le retrouvera sûrement la semaine prochaine. Il y a également aussi Oyan Sanchez qui s'est reblessé à l'entraînement maintenant il y a quelques jours aussi, et qui, voilà, on parle de pubalgie, et qui pourrait donc être absent jusqu'à à la fin de saison, parce que c'est ce que disait Marcelino, c'est qu'apparemment c'est quelque chose qui un jour il va se sentir mieux, l'autre jour il va se sentir moins bien, donc peut-être une opération, donc très probable qu'on ne le revoie pas jouer d'ici la fin de saison. Et puis sinon dans les retours, on a les retours donc d'Inigo Leko aussi, qui était absent depuis quelques temps, et puis je crois que c'est tout, c'était l'unique retour. Donc voilà, deux absents pour demain qui sont quand même assez importants, certes il faut le reconnaître, mais je pense qu'on aura quand même un groupe qui sera complet pour cette rencontre qui va être décisive, on l'a déjà pas mal répété, ouais.
Pareil, très bien, mais je vais rester aussi avec toi, tout naturellement, pour parler du match de l'Athletic, justement. Et alors, comment est-ce que tu vois ce match se dérouler? Sur quoi il pourrait basculer? Voilà, quelle est ta vision de cette rencontre qui nous attend ce samedi soir?
Bah, tout d'abord, c'est vrai que déjà, Timo l'a évoqué tout à l'heure, c'est vrai que cet Atlético l'a pu gagner depuis un moment, hein, déjà aussi à San Mamés, et de manière même plus générale, j'avais vu passer la statistique, comme quoi je crois qu'avec avec Marcelino, on a 2 victoires et un match nul en 4 matchs contre l'Atlético, donc ce qui est pas mal du tout. Et on se souvient justement notamment la victoire en Supercopa en tout début d'année. Donc moi, je vois un match vraiment, j'allais dire difficile, mais plus que ça, plus que difficile, qui va vraiment être difficile pour nous, mais aussi pour Atlético, parce que je pense que nous, on affronte un gros, et face au gros, même si on a l'habitude de se donner, c'est jamais facile. Et puis, un match difficile aussi pour Atlético, parce que je pense que l'équipe a quand même conscience que, voilà, bon, l'Europe, on en parle encore, parce qu'il faut en parler, qu'il faut avoir le devoir d'y croire, mais moi, c'est ce que j'y crois plus vraiment, mais l'équipe, en tout cas, va essayer, je pense, de jouer jusqu'au bout, et surtout, comme je disais il y a quelques secondes, c'est en face un gros, et on sait qu'on a l'habitude de se donner un peu plus, de se dépenser un peu plus face à ce genre d'équipe. Donc moi, je pense qu'honnêtement, offensivement, on va proposer une belle prestation, et c'est en tout cas ce qui me conforte un peu, parce que on parle aussi du fait que Nico Williams pourrait être titulaire, et on avait vu justement déjà contre Cadiz qu'il avait fait beaucoup de mal, et donc moi voilà, j'attends vraiment un match qui va être dur pour les deux équipes, et puis moi en tout cas, ce qui me fait un peu plus peur, c'est que défensivement, depuis quelques temps, même si on est comme une équipe qui reste relativement solide, les clean sheets sont vraiment très très minces, enfin il y en a très peu en tout cas ces derniers temps, et puis là, un peu à l'image du dernier match contre Cadiz, il y a parfois trop de relâchement, parfois trop de difficultés, et on voit qu'on prend des buts parfois un peu ridicules, et quand on sait qu'on parle justement de Suarez et de Griezmann, je crois, pour débuter du côté de l'Atlético, quand on sait que Griezmann est le joueur qui, enfin, il est l'équipe contre laquelle il a le plus marqué. Donc voilà, moi j'ai quelques craintes et quelques espérances, mais disons que il faudra surtout en tout cas faire un match de 90 minutes et pas un match de 45 ou 60 comme c'était trop le cas ces derniers temps. Et puis au milieu, voilà, ce sera la base aussi qui décidera un peu le tout, parce que mine de rien, même si on avait quand même retrouvé, on va dire, une doublure, une charnière en tout cas au milieu qui était assez solide ces derniers temps, enfin, c'est une équipe comme l'Atlético, quand même, c'est pas le même niveau non plus, et donc ça va être aussi le gros enjeu. Mais voilà, il faudra surtout, j'insiste sur ça, faire un match de 90 minutes en restant concentré du début à la fin. Et si on a l'honneur de pouvoir mener au score, et bien pas non plus de vouloir à tout prix préserver ce score, mais surtout d'essayer de doubler la mise et de creuser l'écart, parce qu'on a trop souvent cette saison voulu tenir ces matchs, et au final on s'est fait parfois punir en prenant des égalisations en fin de match, ou même plus généralement, des fois c'est arrivé, des fois où on menait à la mi-temps, on prend 2 buts ensuite et on égalise en fin de match, donc on arrache un nul. Mais voilà, il faut en tout cas se dire que c'est une des dernières chances pour l'Europe, enfin c'est la dernière chance pour l'Europe d'ailleurs, parce que si Villarreal gagne contre Alavés et que nous on perd, on sera à 7 points, donc autant dire que là ce serait terminé. Mais voilà, beaucoup de sérieux en tout cas, et puis Et puis voilà, de la rigueur, c'est ce qu'il a manqué ces derniers temps, c'est ce qu'il faut retrouver là pour ce week-end contre l'Atleti.
Donc en gros, ne pas jouer avec le frein à main pour les Lions de l'Athletic Club. On a bien compris le message, Réfé. Et puis encore merci pour cet avis. Et puis pareil, Timéo, toi, comment tu vois ce match, sur quoi il pourrait basculer, un peu à la manière de Ruben, qu'est-ce que tu t'attends à voir et qu'est-ce que tu aimerais voir aussi de la part de Cholo et de ses hommes?
Moi, je m'attends forcément à un match compliqué parce que, comme je t'ai dit au tout début, on n'est pas allé gagner depuis 5 ans à San Mamés. C'est une équipe qui nous a toujours posé des problèmes quand on les a affrontés, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. On sort quand même d'une défaite contre eux en Super Coupe d'Europe, en Super Coupe d'Europe d'Espagne, pardon. Et ça avait fait mal, surtout les deux buts qu'on se prend comme ça en l'espace de 5 minutes. Ça avait fait un peu mal aux esprits. Donc c'est une équipe, oui, qui nous pose des problèmes, et même si aujourd'hui elle est en difficulté pour accrocher l'Europe, comme l'a dit Ruben, ils ont toujours un espoir, donc ils vont jouer tout leur coup à fond. Et nous, d'un autre côté, on a un peu plus de mal. Je trouve que bah, déjà sur les 5 derniers matchs, on n'a qu'une seule victoire, c'est contre l'Espagnol, et encore on s'en sort grâce à un penalty à la toute fin du temps additionnel. Sur ces 5 derniers matchs, il n'y a qu'une fois où on marque, donc c'est ce match contre l'Espagnol. On a une petite disette de la part de nos attaquants. Ça va faire quasiment un mois qu'aucun de nos attaquants n'a marqué. Contre Alavés, je me souviens que Suarez a marqué. Mais après, on a un Griezmann qui est dans une méforme totale, qui fait la pire saison de toute sa carrière en Liga. Je crois qu'il est qu'à 3 ou 4 buts en Liga cette saison. Alors oui, il a eu des blessures, mais c'est clairement insuffisant pour un joueur de son standing. Donc ça joue beaucoup. Donc moi, j'attends surtout de retrouver une efficacité offensive, de retrouver des attaquants qui combinent bien, qui arrivent à jouer avec leurs armes et avec leurs qualités, parce que sur le papier, logiquement, ça reste quand même des attaquants de classe mondiale. Et puis après, voilà, j'attends de retrouver une solidité à la fois offensive et défensive, parce qu'on sait que l'Athletic Club, ça leur arrive à plusieurs reprises de marquer des buts contre nous. Et puis nous, ce qu'il faudra faire, c'est un match appliqué, un match sérieux, un match plein, où on leur cédera rien défensivement, et puis où on pourra réussir à combiner offensivement, ce qu'on a beaucoup de mal sur le mois d'avril. Il y a eu l'élimination contre City, où le match retour, on a vu quand même des belles choses. Et puis après, notre match contre l'Espagnol, où on gagne un peu à l'arrache, notre match contre Grenade, où c'était vraiment l'ennui total, 21 tirs et un seul cadré, je pense que j'avais jamais vu ça de ma vie. Et donc, il faut retrouver du sérieux. Là, il y a eu 2 semaines de pause où les joueurs sont partis en vacances, ils ont eu le temps de se ressourcer et tout. Là, il y a un sprint final à jouer. C'est deux clubs qui ont tous les deux des ambitions. Alors, l'Atlético, plus facile que l'Atlético, mais voilà, on est à l'extérieur, on sait qu'il y a toujours beaucoup d'ambiance là-bas. Donc, voilà, je m'attends à un match compliqué, et je pense que le plus important et ce qu'il y a à retenir, c'est surtout de la rigueur et du sérieux pour essayer d'aller au moins chercher un point là-bas.
D'accord. Donc pour répondre aux ambitions et à surtout cette volonté de jouer et cette obligation même de jouer pour l'Athletic de Ruben, toi tu mises plus sur de la sécurité, se rassurer et bien sûr se baser sur les fondements qui ont fait la réussite de cette équipe. Mais en tout cas, je te remercie aussi pour ce point très intéressant. Et puis on va tout naturellement clôturer ce podcast avec le traditionnel pronostic. On va commencer par les locaux. Ruben, qu'est-ce que tu vois comme score?
Je pense qu'on peut partir sur un match nul pour toutes les raisons qu'on a évoquées. Puis Timo le disait très bien aussi. C'est vrai que moi, nous, j'ai pas le pareil aussi du fait qu'on avait encore l'espoir, en tout cas, de jouer l'Europe. Mais c'est vrai qu'aussi, l'Atlético joue la place pour la Ligue des Champions, joue sa survie en tout cas pour aller en Ligue des Champions. Donc voilà, un match qui va être vraiment difficile, on l'a dit, et puis surtout voilà, on est à San Mamés. Moi en tout cas, j'ai l'espoir en tout cas qu'on livre au moins, même si le score est pas forcément là au final, qu'on livre au moins une performance décente devant le public quand même, qui devrait d'ailleurs être assez présent en nombre demain. Mais voilà, un match nul un partout, assez peut-être assez frustrant au final au vu de ce qu'on a besoin pour espérer finir plus haut, mais en même temps qui me semble assez réaliste.
C'est très bien. Donc un petit match nul et pour toi, Timéo, qu'est-ce que tu vois pareil comme score?
Et je vois exactement la même chose que Ruben, un match nul. Et le 1 partout, c'était aussi le score que j'avais en tête parce que, comme on a dit dans ce podcast, on a à la fois deux équipes qui ont besoin de gagner des points, mais qui ont, je pense, une défaite serait fatale pour l'une ou l'autre. Nous, l'Atlético, on a toujours eu du mal à jouer là-bas. Là, ils ont quand même l'avantage de l'extérieur, de jouer à domicile, que nous, on n'a pas. Ils ont toujours cette ambiance, ils ont cette envie et ce petit espoir sur lequel s'accrocher. Nous, on a quand même plutôt des incertitudes en attaque. On n'a pas encore, je pense, digéré l'élimination en Ligue des Champions. Donc, moi, je vois un match nul qui, paradoxalement, bah, n'arrangera personne, mais qui permettra aussi, pourquoi pas, d'avancer, parce qu'on sait que c'est toujours dur d'aller gagner à San Mamés, c'est toujours dur d'affronter cette équipe de Bilbao. Et donc, je pense que nous, un match nul, on s'en contenterait quand même. Après, si on peut aller gagner une victoire à l'arraché de 2-1, je dis pas non, mais je pense que si victoire est, ça se jouera vraiment sur des détails. Et Bilbao peut autant gagner 2-1 que nous gagner 2-1. Donc, je vois un petit match nul un partout.
Parfait, parfait. Et puis moi, je vais pas faire mal à l'originalité. C'est vrai que le match nul semble à premier abord être vraiment l'issue la plus probable de cette rencontre. C'est vrai que j'ai du mal aussi à voir l'une des deux équipes s'imposer pour les très bonnes raisons que vous avez tous les deux évoquées. Mais allez, je parierais quand même peut-être sur une victoire de l'Atleti au forceps, pareil, avec un match très intense, peut-être pas spectaculaire, mais vraiment une grosse, grosse, grosse bataille au milieu de terrain, mais avec pourquoi pas un Luis Suarez qui sort du bois à la dernière. Au dernier moment et qui met fin un peu à cette sécheresse hein, de buts en Liga. C'est vrai que pour lui aussi c'est un peu compliqué et qui pourrait pourquoi pas donner la victoire contre l'Athletic qui retomberait peut-être dans les travers que Ruben nous a fort bien expliqué. En tout cas, je vais vous remercier pour ce numéro riche en informations. Donc merci à toi Ruben déjà de nous avoir parlé de l'Athletic.
Bah écoute, merci beaucoup, c'était très bien aussi de pouvoir évoquer tout ça. Bon, il y avait beaucoup d'actualités, c'était pas facile à tout résumer, mais en tout cas très content d'être revenu, d'avoir pu échanger aussi avec Timo sur ce match. Et puis non voilà, je pense qu'on a fait un bon épisode et j'espère que nos auditeurs auront apprécié.
Je pense que le plaisir est au rendez-vous comme d'habitude. Et puis merci à Timéo d'Atleti Francia d'être venu nous parler du cholisme, de Cholo et de l'Atleti.
Eh ben, pas de souci, hein. Comme d'hab et comme je le dis à chaque fois, c'est toujours un plaisir de venir chez vous, de discuter Liga entre nous, et puis c'est toujours sympathique, dans la bonne humeur, dans le respect, et puis que demander de plus? J'espère en tout cas que nos auditeurs auront apprécié.
Exactement, exactement. Et puis que demander de plus? Surtout, ben, un bon match, voilà, qu'on soit tous devant la télé, dans de très bonnes conditions et qu'on assiste à une belle représentation du football espagnol, ça serait le maximum. Et encore une fois, bien évidemment, comme tu le dis, merci aussi aux auditeurs. J'espère que ce numéro vous plaira. Merci pour les écoutes qui ne cessent de monter, pour les statistiques de la page qui sont de plus en plus intéressantes, pour vos compliments aussi que l'on reçoit et qui nous font vraiment très plaisir. Donc voilà, merci à tous et puis surtout, bon match.